Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales sur la chaîne de l'armée de l'air et de l'espace. La chronique du CESA a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Pierre Klostermann. Sur un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi, une musique de l'adjudant Christian Caligaro et avec la voix de François-Éric Gendron, colonel de la réserve citoyenne. En ce mois d'avril 1943, Pierre Klostermann, du groupe de chasse Alsace des forces aériennes françaises libres, participe à son premier combat aérien aux côtés des aviateurs de la Royal Air Force.
Je m'appelle Pierre Klostermann. Je me suis engagé en 1941 comme pilote au sein des forces aériennes françaises libres. Bien qu'étant un pilote confirmé, ayant à mon actif 345 heures de vol, je dois partir en école pour une durée de 8 mois à l'Operational Training Unit, OTU, de Rednal, au Pays de Galles. Je perds ainsi près d'un an dans cette école à apprendre ce que je sais déjà. Mais les procédures anglaises, les systèmes locaux de navigation, la lecture de cartes en rase mode dans le brouillard, je reconnais que c'est nouveau et indispensable. Cette formation marque le début de ma grande histoire d'amour avec le Spitfire, que je pilote pour la première fois en 1942. Depuis le 22 janvier 1943, je vole désormais au sein du groupe de chasse Alsace, appelé dans la Royal Air Force Squadron 341. La mission du jour est simple. Attaquer, à basse altitude, le terrain d'aviation de Trigueville en Normandie, pour mitrailler les chasseurs allemands de la redoutable escadrille Jagdgeschwader II, du nom de Richthofen. Une fois le mitraillage effectué, les pilotes devront grimper au plus vite pour participer à un éventuel combat aérien. L'exécution de cette délicate opération est confiée au Squadron 611 de la Royal Air Force, dont l'indicatif de vol est Brutus. Le groupe Brutus est commandé par le Wing Leader Alan Deer. Notre groupe de chasse français, dont l'indicatif de vol est Turban, est dirigé par le commandant Mouchotte. Cette unité est chargée de patrouiller au sud du terrain, à 1000 mètres, pour protéger le Squadron 611. Je m'installe à bord de mon Spitfire 9B, flambant neuf, pour affronter les redoutables Focke-Wulf 190 allemands de la Jagdgeschwader. Ce modèle de Spitfire est doté du nouveau moteur Rolls-Royce Merlin qui nous fait gagner 45 km/h par rapport à l'ancienne version. Il dispose en outre de canons chauffés résistant au gel et d'un nouveau carburateur qui évite les coupures intempestives. Bref, un magnifique engin de combat. À bord de cette monture anglaise, je suis à la fois anxieux et excité, ayant l'espoir de peut-être enfin remporter ma première victoire. L'idée que je puisse être tué lors de mes premières missions ne m'effleure même pas. Mon mécanicien nettoie frénétiquement la bulle de plexiglas de mon pare-brise avec une peau de chamois et du clairol. Je serre la bride de mon casque, j'ajuste les écouteurs et me voilà isolé du reste du monde. Tandis que mon moteur ronronne doucement, j'attends l'ordre de décoller. Mon indicatif de vol est Turban Yellow. Dans le casque, j'entends mon coéquipier Christian Martel qui me lance.
Tu es mon numéro 2, alors couvre-moi bien, car ça va probablement saigner.
Je décolle enfin depuis la base de Big Hill, et 40 minutes plus tard, nous voilà au-dessus de la France, entre Dieppe et Saint-Valery. Dans mon casque, j'entends Mouchotte qui calmement ordonne.
Formation ouverte, larguez les bisons.
Puis, s'adressant au chef de la formation, toujours aussi calme.
Allô Brutus, il y a des avions qui roulent au sol, en bout de piste.
Je remarque en effet une vingtaine de cockpits qui brillent sous le soleil. Ce sont les Focke-Wulf 190 qui décollent, puis tourbillonnent pour prendre de l'altitude. Les Spitfire du 611 foncent dans le tas. Au bout de quelques secondes, je suis le spectateur d'un beau désordre d'avions. Amis et ennemis, mêlés quasiment au ras des hangars de tôles ondulées, couvertes par des bâches camouflées. Pour ma part, je participe à ce manège sans souffle, tournant désespérément, à la limite du voile noir, le cou tordu par la force centrifuge. Je vois un Focke-Wulf 190 qui ouvre le feu sur moi. Ces traceuses voltigeant plus lumineuses, pas loin du bout de mes ailes. Deux autres Focke-Wulf 190 me serrent de près. J'ai peur d'y rester. J'ouvre ma radio et hurle.
Ici, Turbaniello, à l'aide!
Pour unique réponse, on me crie à la radio.
Ferme-la!
Cependant, le Focke-Wulf 190 se rapproche de plus en plus de moi. Si près que je vois distinctement l'aigle noir peint sur son fuselage et sa casserole d'hélice jaune. À ce moment, je ne sais pas pourquoi, le Focke-Wulf 190 roule sur la gauche et glisse sous moi. Avant que je ne puisse renverser mon virage et profitant de sa vitesse acquise, il grimpe incroyablement à la verticale. Bascule, revient en passe, presque frontal, piquant tout droit, me frôle et file accompagné de son ailier, 1000 mètres en dessous, au ras des arbres. Le combat aérien est âpre, entre deux ennemis, bien décidés à ne pas lâcher l'affaire. J'entends dans mon casque des ordres, ou plutôt des cris, qui ajoutent à la confusion. Le désordre est à son comble, lorsque Alan Deer, qui surveille les jauges à essence, donne l'ordre à tous de rompre et de rejoindre le point de rendez-vous à Fécamp. Mouchotte ordonne donc au pilote français du 341 de rejoindre la base de Biggin Hill. Une fois les avions posés, nous faisons le compte. Nous avons perdu deux avions, mais abattu autant d'Allemands. Partie nulle. C'est rageant, car si nous étions arrivés sur zone 2 minutes plus tôt, nous aurions surpris la Luftwaffe au roulage. Après mon atterrissage, Martel vient me voir. Et tandis que je range mon parachute, il me lance d'un air narquois. « Alors, Clo-Clo, on a un peu paniqué ?» Avant que je ne réponde, Mouchotte me lance. « Ne vous en faites pas, nous sommes tous passés par là au début. Rangez vos affaires, allez déjeuner et boire une bière, c'est fini pour la journée. Reposez-vous après, on se reverra demain matin. » Cette première expérience est à jamais restée gravée dans ma mémoire. Désormais, je sais l'angoisse du combat aérien. À la fin de la guerre, je totalise 2000 heures de vol, dont 600 heures de combat, 33 victoires aériennes homologuées et 5 probables. Je suis ainsi devenu le premier as français de la Seconde Guerre mondiale. Outre ces victoires aériennes, j'ai détruit en rase-motte 225 camions, 72 locomotives, 5 blindés, 2 vedettes lance-torpilles, ainsi que de nombreux autres matériels. Je suis titulaire d'une trentaine de médailles françaises ou étrangères, dont la Grand Croix de la Légion d'honneur, l'Ordre de la Libération, la Médaille militaire, la Croix de guerre 39-45, avec 17 citations, la Distinguished Flying Cross and Bar, anglaise, la Silver Star de la Distinguished Flying Cross américaine. En 1948, je publie mes mémoires, Le Grand Cirque, qui font partager à un public profane, au plus près de l'action, mes nombreuses missions aériennes au-dessus de l'Europe.